Voix Nue. Toute cette semaine, Séverine Liata rencontre Françoise Zonaben. Ce soir, jeune ethnologue dans le laboratoire dirigé par Claude Lévi-Strauss.
Bonsoir Françoise Zonaben.
Bonsoir.
Alors vous êtes anthropologue de la France, ancienne directrice d'études à l'EHESS. Vous avez travaillé et vous travaillez encore sur les problématiques de parenté et leur mise en mémoire. Vous avez également initié une anthropologie du risque en étudiant les façons de dire, les façons de faire face au risque nucléaire. C'était à La Hague, dans le Cotentin, au début des années 80. Vous avez publié entre autres « La mémoire longue » ou la presqu'île nucléaire, et puis de nombreux autres articles sur des sujets correspondants. Et donc, nous avons commencé hier nos entretiens et nous nous sommes penchés sur votre histoire familiale. Vous êtes au milieu des années 1930, vous êtes d'origine juive, vous avez donc vécu la guerre et ses dangers. Vous nous avez parlé aussi de votre mère, de votre père, de vos sœurs, de vos quatre sœurs, parce que vous êtes une famille de filles. Et je voudrais aujourd'hui que vous racontiez vos débuts d'anthropologue durant les années 1960 aux côtés donc de Claude Lévi-Strauss et d'Isaac Kiva, qui fondent alors un laboratoire de recherche, un nouveau laboratoire, nouveau dans ses perspectives et aussi dans son mode d'organisation, le LAS, le laboratoire d'anthropologie sociale.
Oui, c'est... vous résumez très vite ce qui a mis beaucoup de temps
voilà, c'est pour ça
à se dérouler. Alors, c'est pas très facile peut-être de un peu de reprendre son souffle, mais c'est vrai que oui, je suis entrée au laboratoire parce que Kiva cherchait une collaboratrice pour travailler sur la revue qu'il avait amenée au laboratoire et qui s'appelait la revue Études Rurales. Et bon, par des compagnons, des collègues que j'avais rencontrés pendant mes études, ils m'ont dit qu'il y avait cette possibilité de travailler au laboratoire d'anthropologie sociale. Bien sûr, je connaissais Lévi-Strauss bien de pour avoir suivi ses cours. Je suis rentrée au départ vraiment pour travailler sur la revue. Pas tellement, je pensais peut-être même pas à faire véritablement à continuer des recherches. Je pensais que le laboratoire était un grand laboratoire généraliste. Généraliste, c'est-à-dire qu'il y avait des africanistes, des américanistes, des océanistes. Mais à part Kiva, il n'y avait pas d'européanistes.
Voilà, il faut préciser que donc il y a Lévi-Strauss qui représente un petit peu l'anthropologie, entre guillemets, exotique, lointaine. Et puis Kiva, l'européaniste. Et donc, l'association des deux, qui est un peu, pas improbable, mais en tous les cas, qui va donner quelque chose de...
Oui, qui va donner le laboratoire d'anthropologie sociale, parce que Lévi-Strauss et Kiva ont toujours dit, l'un et l'autre, que l'un sans l'autre, en tous les cas, Lévi-Strauss n'aurait jamais fondé le laboratoire s'il n'avait pas eu Kiva à ses côtés pour l'aider. Il y a eu, dès le départ, cette idée... tout à fait normal pour Lévi-Strauss que Kiva s'occuperait de la partie européaniste du laboratoire. Il n'a jamais pensé que le laboratoire devait se cantonner dans les recherches, traditionnelles, classiques de l'anthropologie, donc sur les sociétés lointaines. Et lui-même, d'ailleurs, était très intéressé par tout ce qui se faisait sur l'Europe. D'abord, il en parle souvent dans ses travaux. Et puis, c'est comme ça qu'il avait rencontré Kiva, dont il était le parrain au CNRS, et à qui il avait proposé de faire une thèse sur la Corse. Cette thèse n'a pas abouti, mais ensuite, il lui a demandé de faire un terrain à Marcoule. Donc, Lévi-Strauss se tenait au courant et était tout à fait ouvert sur la problématique des sociétés du proche. Enfin, pour lui, il n'y avait pas de grand partage. Il y avait une seule façon de travailler sur ces sociétés, qu'elles soient lointaines ou proches, c'était de travailler en anthropologue, en ethnologue.
Et ça, c'est nouveau à l'époque, Françoise Zonaben, c'est-à-dire de prendre une société, alors en l'occurrence en France ou en Europe, et de la traiter comme une société lointaine.
C'était pas nouveau en France. Ce qui est nouveau, c'est de la traiter, de l'étudier en anthropologue, par les méthodes de l'anthropologie. Parce que à l'époque, c'était dans les années 60, 65, 70, il y avait des études sur la France ou sur les sociétés européennes ou sur des sociétés proches, étaient nombreuses. Mais disons que ça se divisait d'une part, il y avait ceux qui étaient membres du Musée des arts et traditions populaires, ceux qu'on appelait les folkloristes.
Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces folkloristes?
Justement, ces folkloristes, leur principal souci, c'était de ramasser tout ce qui allait disparaître. Et c'était donc à la fois collectionner les objets du passé qui étaient en train de disparaître et aussi essayer de retenir en mémoire ou d'écrire sur, de faire des études sur les rituels passés, sur tout ce qui était en train de disparaître de la société rurale essentiellement. On s'occupait très peu des sociétés urbaines à l'époque.
Donc ça, c'est le milieu des ATP, des arrêts de tradition populaire.
Ça, c'est le milieu des ATP essentiellement. À côté, il y avait encore une autre branche, c'était les sociologues. Et les sociologues qui aussi, eux, s'occupaient des mondes ruraux et de l'Europe, mais eux, ils étaient plutôt intéressés vers la modernité, ils étaient tournés vers le changement. Justement, eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'était comment ces sociétés rurales allaient se transformer sous l'effet de l'ouverture, de la mondialisation, de l'ouverture des frontières et surtout des changements techniques et des changements économiques qui, à la fin de la guerre, se sont passés avec énormément de force. Et donc, eux, ce qu'ils intéressaient, c'était, voilà, comment est-ce que cette société rurale, ces sociétés rurales, allaient pouvoir s'intégrer à ces changements économiques, sociaux, techniques.
D'autant qu'on est à cette période de Françoise Audabène, en plein exode rural, justement, c'est un peu le départ un peu des campagnes. Donc, on veut d'autant plus s'interroger, peut-être.
Oui, il y avait ce départ des campagnes, il y a aussi ce malaise des campagnes. Il faut se souvenir qu'il y a eu des grands, disons, rassemblements des paysans, que ce soit en Bretagne, qui, justement, manifestaient contre ces changements brusques qu'on leur imposait et qui faisait qu'il fallait qu'ils se regroupent, que leurs exploitations étaient trop petites, il fallait remembrer. Enfin, bon, il y avait tout un ensemble de faits qui se passaient à cette époque qui faisaient que les campagnes étaient extrêmement turbulentes, d'où peut-être ces grandes enquêtes qui ont été lancées par le CNRS enfin, à cette époque, mais sur lesquelles on reviendra. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que, vous voyez, entre ces folkloristes des ATP et entre les sociologues, ben, les ethnologues sont venus s'insérer. Les ethnologues ont venu montrer, ou essayer de montrer, tout au moins au début, que l'on pouvait s'intéresser à ces sociétés qui étaient en plein bouleversement, en plein changement, parce qu'il y avait des façons de comprendre en les étudiant, non pas par les interrogements, non pas uniquement sur leur passé, et non pas non plus en les sollicitant constamment sur ce qu'ils allaient devenir, mais en essayant de comprendre ce qu'ils étaient et ce qu'ils faisaient. C'est ce qu'on a tenté de faire à Minot, c'est-à-dire dans ce village de Bourgogne où on a travaillé.
Alors on va y revenir hein, sur Minot, bien sûr, et les historiens. Du coup, Françoise Audabène, non, c'est parce que c'est la période aussi, voilà, où donc ces grandes enquêtes pluridisciplinaires hein, vont être engagées et financées par l'État.
Oui, oui. Mais les historiens, ils ont été plutôt, ils s'interrogeaient, enfin plutôt, ils s'intéressaient aussi au passé des sociétés. Et il y a aussi beaucoup de démographes qui se sont intéressés aussi au passé de ces sociétés. Mais les historiens travaillaient sur les archives et avec des archives. Nous aussi, on a travaillé avec des archives, mais on les a pas
exploitées
de la même manière, effectivement. Et donc, nous, ce qu'on cherchait dans ces archives, qu'on a beaucoup utilisées à Minot, parce que c'est très important, mais on cherchait à comprendre ce qui, dans ces archives, était toujours d'actualité dans la société rurale qu'on étudiait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on entendait des mots qui revenaient et dont on avait trouvé trace il y a 150 ans dans des papiers de la justice seigneuriale, etc. Et c'est cette pérennité-là, cette mémoire longue, en quelque sorte, des sociétés rurales, locales, qu'on a essayé disons, qui ont fait notre originalité par rapport aux sociologues, par rapport aux historiens. Et avec les historiens aussi, on a travaillé aussi beaucoup après, mais un peu plus tard, quand ils ont compris que travailler sur les états civils ou les états paroissiaux, par exemple, faire des généalogies en utilisant uniquement que ces données archivistiques, en quelque sorte, eh bien, c'était
réducteur.
Réducteur et surtout que il ne pouvait pas effectivement mettre en avant des stratégies matrimoniales, des façons de penser la parenté ou sur le rôle des parents, parce que toutes ces données-là, ben, elles ne sont pas inscrites dans les archives.
Alors, on va y revenir plus précisément, hein, Françoise de Naben, à cette enquête dominante. En tous les cas, cette enquête, elle succède à une autre enquête qui est assez connue, celle de Plausévette, oui. Hein, qui va drainer aussi un certain nombre de chercheurs dans ce coin-là, notamment avec Edgar Morin à sa tête. Et puis, dans l'Aubrac aussi, une grande enquête va être menée. Et vous, donc, c'est une enquête qui va concerner ce qu'on appelle le Châtillonnais.
Le Châtillonnais, c'est le nord de la Côte d'Or, enfin le...
où plusieurs enquêtes vont être menées, à la fois des historiens, des géographes, des sociologues, et quatre anthropologues, quatre femmes, qui vont aller à Minot. Alors, déjà, pour commencer, pourquoi Minot, le choix de ce village, petit village de 400 habitants ?
470. Bon, c'est ce qu'on appelait les recherches coopératives sur programme.
Les RCP.
Les RCP. Il y a eu Plausévette, l'Aubrac, et puis le Châtillonnais, il y en a eu d'autres en plus après. Mais il faut bien savoir que quand on a commencé à travailler sur le Châtillonnais, aucune des recherches sur Plausévette ni sur l'Aubrac n'était publiée.
C'était en cours.
C'était en cours. Or, le Châtillonnais, qui était justement choisi parce qu'elle était différente de celle de l'Aubrac, où l'Aubrac, c'était une région en cours de déshérence, où les gens partaient uniquement vers Paris. Alors que dans le Châtillonnais, il y avait des petites villes, Châtillon-sur-Seine, Dijon, qui n'étaient pas très loin. Et on pensait que l'existence de ces petites villes pouvait donner d'autres façons de déboucher pour les ruraux. Et donc, il a été décidé de travailler sur le Châtillonnais et on a demandé, ce sont des recherches pluridisciplinaires, comme on avait su qu'à Plausévette, la pluridisciplinarité, c'était un peu difficile parce que Plausévette, c'est un gros village, les villages bretons qui sont tout à fait différents avec des paroisses disséminées. Et qu'il y a eu beaucoup de chercheurs qui sont passés les uns après les autres sans qu'ils se transmettent leur passage les uns aux autres, donc c'était pas très facile. Il a été décidé que non seulement chaque discipline aurait son coin, sa région.
Son terrain, sa région.
Sa région. De façon à ce qu'on ne se marche pas sur les pieds.
C'était du pluridisciplinaire un peu cloisonné
voilà.
Quand même.
Voilà, c'est la disciplinarité dispersée dans le Châtillonnais pour ne pas que, avant des historiens passent, les linguistes passent, des folkloristes passent, enfin, etc., des démographes passent avant nous et que ça, le terrain était quand même un peu difficile. Et donc, il a été décidé que parmi les différents points de recherche où seraient donc fixés le sociologue, l'historien, etc., eh bien, les ethnologues feraient une monographie de village et que ce serait le laboratoire d'anthropologie sociale qui aurait le privilège, si l'on peut dire, de mettre en place cette monographie.
Alors, donc, le choix, il fallait choisir le village.
Et bien évidemment, Isaac Kiva, qui lui était donc le spécialiste de la France paysanne et des mondes ruraux, qui a été chargé de mettre en place cette enquête dévolue au laboratoire d'anthropologie sociale. Et nous sommes partis, Kiva et moi, dans le Châtillonnais, pendant 3-4 jours. On a sillonné un certain nombre de villages. On a regardé les archives, on a parlé aux maires, aux gens, aux instituteurs, etc. Au bout de 3 jours, on a décidé que ce serait Minot. Pourquoi Minot ? Parce que Minot, il y avait des archives extraordinaires, qui était resté dans la mairie.
Donc des registres civils.
Des registres paroissiaux, des registres civils, la justice seigneuriale, des monographies de villages qui avaient été faites il y a un siècle, enfin, beaucoup de données qui étaient là et qui n'avaient pas encore été classées et mises en place. Et qui devait être envoyé aux archives départementales, bien entendu. Mais pour l'instant, elle se trouvait encore là.
Et ça, Françoise Zonaben, pour qu'on comprenne un peu comment l'anthropologue choisit son terrain, puisque vous aviez le choix, après tout, parmi plusieurs villages. Donc, vous le savez tout de suite qu'il y a, voilà, qu'il y a de la surge archivistique.
Le secrétaire de mairie nous a accueillis très gentiment. Il nous a dit, mais oui, d'ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous donner la clé de la mairie, vous viendrez travailler dans les archives. Le maire du village nous a accueillis aussi, ça l'intéressait, il dit oui, pourquoi pas.
Henri Julien, donc.
Henri Julien, qui pendant 40 ans était maire de cette commune et nous a toujours vraiment soutenus. Et donc, il trouvait intéressant, on s'intéresse à sa commune, il pensait que ça allait la faire connaître qu'il pourrait en tirer un certain nombre de satisfactions, en quelque sorte. Et puis, il y avait les instituteurs.
Alors, Michel Guyonnet, c'est un couple, hein, je crois.
Oui, c'est un couple, parce que à ces époques, l'école, c'était deux classes, la grande et la petite, et généralement, c'était le couple d'instituteurs dont lui était en même temps le directeur de l'école et faisait la classe aux grands, et sa femme institutrice faisait la classe aux petits, dans la petite classe. Et donc les instituteurs nous ont accueillis aussi en disant « Ah ben oui, très bien, c'est intéressant, si vous voulez, on vous aidera ». Vraiment, on a reçu de ces...
acteurs importants du
oui,
village.
Ben, enfin, c'était effectivement...
C'était eux qui allaient aussi vous donner... Enfin, l'autorisation, entre guillemets, c'est-à-dire il y a à la fois l'accueil et puis...
L'accueil et puis surtout l'ouverture. Ils pouvaient nous emmener, d'abord on pouvait avoir, grâce à eux, on pouvait parler, moi j'ai pu faire une enquête dans les classes, on a pu faire un tableau du temps, mettre en place des travaux avec l'instituteur, faire des choses comme ça. Et le maire du village a dit à ses concitoyens et à ses administrés, eh bien oui, voilà, on va faire une enquête et accueillir ces dames, comme nous sommes devenues les dames de Minot.
Alors, donc il faut expliquer, donc vous êtes quatre dames,
oui,
donc alors, jeunes dames, hein, oui. jeunes anthropologues.
Et il se trouve que, comme par hasard, le groupe disposé à aller faire des enquêtes en milieu rural en France, eh bien, il y avait que des femmes.
Alors, il faut développer un petit peu, parce que c'est pas anodin, évidemment.
Non, c'est
Françoise
pas anodin,
Zonaben.
C'est vrai. Moi, je travaillais déjà avec Kiva, mais j'avais passé ma thèse, j'en avais assez, je voulais reprendre des études d'ethnologie, et c'était l'occasion, au fond, d'aller faire du terrain, à nouveau, à Minot. Et une monographie toute seule, c'était un peu difficile, donc Kiva a demandé, il y avait Tina Jolas qui travaillait déjà au laboratoire comme vacataire au FILE, c'est-à-dire à ce fonds qui était dans la bibliothèque du laboratoire et qui était un fichier immense fait par une université américaine et qui permettait de retrouver des items, c'est-à-dire des notions au travers un grand nombre d'ouvrages. Qui était dépouillé à partir de ces notions. C'est ce qu'on appelait les Human Rights Files. Et on avait l'unique exemplaire qui existait en France.
Ramené des États-Unis.
Ramené des États-Unis et
par Lévi-Strauss.
Voilà, par Lévi-Strauss. Et mis dans son laboratoire. À la disposition de tous les anthropologues, bien entendu.
Et donc, Tina Jolas. Donc ça c'est.
Tina Jolas s'occupait, parce que tout le fichier est en anglais, donc Tina était parfaitement bilingue, et donc s'occupait de recevoir les chercheurs qui venaient travailler au FALS. Il y avait Marie-Claude Pingot, qui, elle était géographe, et qui a voulu aussi venait finir sa thèse, etc., chercher un point de chute. Et comme moi, je quittais Études Rurales, la revue, on lui a demandé si elle voulait bien entrer à ma place. Et donc, elle s'est mise à travailler à Études Rurales. Mais elle aussi, elle trouvait que travailler uniquement sur une revue, c'était un peu ennuyeux. Et puis, il y avait Yvonne Verdier, qui, elle était... un peu plus jeune que nous, venait de finir aussi ses études d'anthropologie, mais qui était en train de préparer sa thèse et qui ne l'avait pas encore finie, qu'on avait rencontré dans la première phase de cette recherche coopérative sur programme dans le Châtillonnais, qui s'est déroulée pendant 3 ans, une phase où il y avait des questionnaires qui étaient passés à un échantillon de la population pour savoir d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient et pourquoi. Et puis une deuxième phase où on devait soi-disant éplucher les résultats de ces questionnaires, et la troisième phase qui devait être la phase des recherches. La troisième année devait être les recherches embrayées par chacune des disciplines dans chacun des coins où on lui avait décidé de l'y mettre. Et donc on s'est rencontrés comme ça, on était rassemblés au laboratoire, disponibles, on se connaissait très bien parce qu'on avait participé toutes les quatre à la première phase de la RCP. Et quand Kiva nous a proposé de continuer à travailler sur ce village de Minot qu'on avait choisi, d'y faire une monographie, on a accepté.
Alors par contre, vous le ressentirez aussi au cours de votre recherche, hein, toutes les quatre, Françoise Onabène, mais là, il y a aussi un partage des tâches, si je puis dire, puisque aux femmes, l'anthropologie de la France, plutôt, hein, vous avez commencé à l'évoquer, parce que soit vous êtes mère de famille ou mariée, les femmes, et aux hommes, plutôt, toujours cette anthropologie lointaine, la terra incognita, les longs séjours à l'étranger.
Oui, c'est vrai qu'il y avait cette partition, en quelque sorte, à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, au laboratoire. Les chercheurs les plus prestigieux du laboratoire travaillaient tous dans des sociétés exotiques, lointaines, et comme par hasard, quand on a proposé cette recherche sur la France, ce sont 4 femmes qui ont accepté de la faire. Donc il y avait ce côté qui était un peu, enfin on nous a considérés un peu d'une façon un peu péjorative. Pourquoi ? Parce que à l'époque encore existait le grand partage, c'est-à-dire ce qui était la véritable anthropologie, l'anthropologie traditionnelle, classique, c'est l'anthropologie des ailleurs, des mondes lointains, des sociétés sans écriture, où on devait rester extrêmement, faire du terrain, difficile. Mais c'était la façon, justement, cette imprégnation du terrain où on ne pouvait que recueillir que des données par soi-même, puisqu'il n'y avait pas de traces écrites, il n'y avait pas d'écriture, c'était société sans écriture, sans histoire. Enfin bon, maintenant on est revenu un peu là-dessus, mais à l'époque c'était ça. Et donc, c'était cette configuration donnait sens à l'anthropologie. Puisque, arrivant de loin, l'étranger ne pouvait être qu'étonné par tout ce qu'il allait rencontrer. Ou, en fin de compte, cette position qu'avait l'ethnologue qui, lui, venait des sociétés occidentalisées, eh bien, il avait en lui, justement, les bonnes lunettes pour comprendre les sociétés lointaines, parce que lui, il voyait vraiment, avec son regard lointain, comme disait Lévi-Strauss, vous regardez de loin, ni trop près, ni trop loin, eh bien, il pouvait effectivement mieux s'apercevoir comment ces sociétés vivaient et théoriser un certain nombre de traits sociaux qui allaient faire l'anthropologie structurale, en fin de compte.
Mais en même temps, vous allez aussi faire de l'anthropologie voilà. À distance aussi.
Oui,
mais
nous
en
allons
étudiant.
Faire l'anthropologie à distance, mais nous ne partons pas. Donc nous sommes effectivement, on va travailler chez nous, quoi. C'est comme si on quittait pas. Et effectivement, pourtant nous avons travaillé pendant presque 8 ans à Minot, mais nous y sommes installés un mois, 4 semaines, 3 semaines, ou 1 semaine, et puis on revenait, on repartait. On n'est pas resté pendant ces 8 années à Minot, mais justement, c'était cette imprégnation et cette proximité qui nous a permis de travailler ainsi. Mais malgré tout, il n'y avait pas l'aura des lointains exotiques. Voilà.
C'est un peu l'anthropologie de salon.
Ben, c'est ce que j'ai fini par comprendre, parce que, au fur et à mesure, mais on a mis du temps à comprendre. Mais en revenant justement, et on y reviendra plus tard peut-être, mais sur mes archives et sur ma mémoire et ce que j'avais gardé comme souvenir de ce qui s'est passé au moment où on a fait cette enquête à Minot, eh bien, on avait dit à nos collègues en rentrant, ben oui, nous on travaille à Minot. D'ailleurs, là-bas, ils nous appellent les Dames de Paris. Parce que effectivement, nous étions venus de Paris, donc nous étions quatre dames, mais les dames de Paris. Et donc nos collègues au laboratoire ont dit ah ben voilà, ben vous êtes les dames de Paris là-bas, ben ici vous êtes les dames de Minot. Et puis peu à peu, on s'est aperçu ben qu'est-ce que ça voulait dire d'être appelées les dames de Minot. Ben c'était un petit peu ces dames au salon quoi, ces dames, et que d'une certaine manière, on allait faire une anthropologie, disons, féminine, en fin de compte. Voilà, on allait teinter cette anthropologie qui était si proche de soi que tout le monde savait ce qui se passait. Pourquoi aller dans ces villages, même un peu loin de Paris ou quoi? Mais les gens savaient très bien ce qui se passait. Ils étaient tous venus souvent de ces mêmes régions. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait trouver d'intéressant et de nouveau à dire?
Ça, c'était une autre critique, enfin, une autre incompréhension à laquelle vous aviez affaire, Françoise Onabène. C'était plutôt les folkloristes, par exemple, qui avaient étudié les sociétés rurales en folkloriste et qui ne comprenaient pas trop qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans vos recherches.
Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans nos recherches? Mais il y avait aussi le fait que nos collègues, nous étions au laboratoire d'anthropologie sociale et nous y tenions. Et donc, on tenait à parler d'une même voix, d'une seule voix avec nos collègues. Donc, il fallait que l'on leur apporte les preuves comme quoi ce sur quoi nous travaillons valait autant que ce sur quoi ils avaient travaillé en étant partis très loin et très longtemps. Donc, c'est pour ça que nous avons travaillé sur les mêmes objets que les autres anthropologues. Pourquoi la parenté? Je dirais qu'au laboratoire avec Lévi-Strauss, c'était normal de travailler sur la parenté. Donc on a travaillé sur la parenté. Mais on n'a pas travaillé comme les folkloristes, ni comme les démographes, ni comme les historiens. On a travaillé en anthropologue sur la parenté à Minot.
Eh bien, nous y reviendrons, Françoise Onabène, sur votre travail à Minot, justement, demain. Merci.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Séverine Liattard avec Françoise Onabène. À voix nue. Attachée d'émission, Claire Poinsignon. Prise de son, Benjamin Chauvin. Réalisation, Manouchak Fachaï. Cette émission s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.